sur le sujet.
D'accord, merci beaucoup pour l'invitation et pour l'accueil. Quelques petites précisions peut-être. Je suis traducteur, c'est parce que je préfère l'écrit à l'oral. Donc j'ai tendance à vouloir aller trop vite pour finir le plus rapidement possible, donc à parler beaucoup trop vite. Donc si je parle trop vite, il faut m'interrompre pour me rappeler d'être plus lent. Première précision. Deuxième précision, le titre. Très bien, en effet. C'est un très bon titre. Alors je voulais justement avoir une... J'avais un peu... C'est du plagiat éhonté, parce que c'est un très bon titre que je ne connaissais pas. J'aurais bien voulu prendre ce titre-là pour mon article, mais je n'avais pas pensé à ça. Et en fait, c'est depuis lors qu'il y a eu un... Récemment, en fait, il y a eu un article en anglais qui est paru, en fait, dans le Journal of Political Philosophy, je crois, avec ce titre en anglais, que donc j'ai repris, et donc je me suis dit... Je voulais aussi rendre crédit en fait, à l'auteur original. Et puis, donc, en effet, c'est un très bon titre. Donc, je me permets aussi de le dire parce que ce n'est pas le mien. Donc, voilà, donc c'est du plagiat. C'est Kasper Liepert Rasmussen, je crois, un nom comme ça. Je dois l'avoir ici, je pourrais le montrer. Voilà, donc, en effet, le thème à la fois de cet article. Et du mien et de ma présentation aujourd'hui, et la discrimination statistique. J'avais commencé à m'intéresser à ce sujet il y a un certain temps, guidé par deux intuitions, quoi, par deux idées principales. La première est que c'est une forme de discrimination assez peu connue, en fait, quoi. Ou plutôt qu'on rencontre fréquemment, mais qui n'est pas conceptualisée ou explicitée de manière assez fréquente. Donc le premier objectif, et qui sera ma première partie en quelque sorte ici, c'est de juste expliquer ce qu'est la discrimination statistique et la différencier des autres formes de discrimination. Et peut-être l'intuition, la motivation principale était le sentiment que, au fond, de discuter cette forme particulière de discrimination d'un point de vue moral pouvait nous aider à mieux saisir quels sont les fondements moraux pertinents pour l'analyse des discriminations. Parce qu'en effet, beaucoup des objections intuitives qu'on adresse aux discriminations ne semble pas pertinente pour cette forme précise de discrimination. En fait, c'est une forme de discrimination qui semble échapper complètement aux arguments qu'on oppose généralement aux discriminations. Et pourtant, il y a quelque chose qui dans certaines de ces certains cas de discrimination statistique pose problème malgré tout. Et donc, ça nous invite à chercher ailleurs les fondements moraux de notre réaction. Donc, au fond, ce sera aussi mon deuxième objectif. Donc, je vais d'abord commencer par exposer ce qu'est la discrimination statistique avant de discuter des fondements moraux envisageables. Alors, une définition un peu abstraite en l'état de la discrimination statistique serait de dire qu'elle se produit lorsque une propriété A, facilement identifiable des individus appartenant à un groupe donné, est positivement mais imparfaitement corrélée avec une propriété B, difficilement identifiable et considéré comme préjudiciable à la réalisation d'une finalité sociale ou personnelle légitime. Et la discrimination intervient lorsque on défavorise des individus possédant la propriété A en raison de cette relation entre propriété A et propriété B. Donc, de manière plus générale, on pourrait dire que la discrimination statistique se produit chaque fois qu'un individu est jugé sur la base des caractéristiques moyennes dues ou des groupes auxquels il appartient, plutôt que sur la base de ses propriétés propres, de ses caractéristiques propres. La discrimination statistique se produit lorsque l'information nécessaire... En fait, ce qu'on pourrait dire, c'est que... Donc, ce qui est important là dans la définition est cette notion de facilement identifiable ou de difficilement identifiable. Au fond, ce qu'une personne aimerait faire, c'est pouvoir se prononcer, pouvoir exclure les gens qui ont la propriété B. Le problème, c'est que souvent, on ne peut pas savoir si cette personne a cette propriété ou non, ou on ne peut que difficilement le savoir. Et donc, on utilise une propriété plus facilement identifiable, la propriété A, parce que elle est corrélée au niveau statistique avec la propriété B, et donc on peut s'en servir comme un indice de la présence de la propriété qu'on cherche à éviter. Donc au fond, là, c'est la caractéristique principale de la discrimination statistique, c'est qu'elle n'est pas motivée par des préférences discriminatoires. C'est-à-dire la personne ne cherche pas à discriminer les individus appartenant au groupe défini par la propriété A par un intérêt qui porte directement sur cette propriété A en tant que telle, mais uniquement de manière indirecte comme proxy ou indice de la présence d'une propriété cachée. Je crois que c'est plus simple de commencer avec des exemples directement. Donc en fait, il y aurait une infinité d'exemples, ça fait partie de la démonstration de montrer la prévalence, à quel point ce type de discrimination est répandu. La première que j'évoquerai est celle de la discrimination sur le marché du travail, parce qu'au fond, c'est l'origine même du modèle de discrimination statistique a été développé par des économistes qui cherchaient à expliquer la permanence des discriminations sur le marché du travail. Donc là, je crois qu'en fait, on m'avait dit que ce serait une bonne chose de présenter rapidement le modèle économique de la discrimination, donc avec notamment un auteur comme Gary Becker, qui analyse la discrimination de manière assez simple, d'un point de vue économique. Donc d'un point de vue économique, théoriquement, si par exemple je suis un raciste, un employeur raciste, et que j'ai pour règle d'exclure par principe les employés de couleur. Ce faisant, c'est une préférence discriminatoire que j'aurais, qui est totalement irrationnelle au niveau économique, parce que, premièrement, je peux me priver du meilleur employé possible. Peut-être que la personne de couleur qui se présente aurait été meilleure que la personne blanche ou locale. Ou même si ce n'est pas le cas, au fond, je me prive d'une réserve de main-d'œuvre. Et donc, selon la théorie de l'offre et de la demande, au fond, dès lors que j'exclus par principe une réserve de main-d'œuvre disponible, je rétrécis le nombre de personnes que je pourrais embaucher. Et donc, par effet, donc de cette manière, j'accepte de payer plus cher la main-d'œuvre que par rapport au prix que j'aurais pu la payer. Ou au contraire, j'exclus un candidat meilleur. Et donc, théoriquement, dans un modèle de concurrence parfaite, le marché devrait sanctionner ce genre de goût dispendieux. Au fond, c'est une sorte de préférence, c'est une forme de luxe, au fond. Au fond, le fait d'avoir une préférence discriminatoire, c'est une préférence qui a un prix monétaire, c'est le prix qui correspond à la différence entre l'offre et ce mécanisme d'offre et de demande. Au fond, c'est une sorte de goût dispendieux, quoi. J'accepte de payer plus cher ou de prendre un employé moins bon qu'un autre. Et cette différence-là est l'expression économique, en quelque sorte, de mon goût dispendieux, qui est un goût pour la discrimination, qui vient pervertir le mécanisme de marché. Et donc, théoriquement, dans un mécanisme de marché, mon concurrent qui n'est pas raciste saura prendre le meilleur employé ou pourra payer moins cher ses employés et donc devrait me supplanter. Et donc, à terme, une concurrence parfaite devrait sanctionner les préférences irrationnelles et donc l'ensemble des préférences qui viennent perturber les décisions des agents économiques. Le problème est que, bon, on pourrait toujours dire que le marché n'est pas parfait, mais de manière plus... on sent bien qu'au fond, il y a différents mécanismes, quand même, au point de vue économique, qui pourraient expliquer pourquoi les discriminations se maintiennent malgré ce mécanisme de marché. Alors, il y en a plusieurs. Une évidente, c'est que les préférences discriminatoires peuvent être le fait de mes clients, par exemple. Si par exemple je suis un vendeur de chaussures et que mes clients ne veulent pas venir dans mon magasin, si c'est une personne de couleur qui les sert, je vais devoir reporter cette préférence discriminatoire pour m'adapter aux exigences de mes clients. Mais on reste dans le modèle des préférences discriminatoires, même si ce n'est pas les miennes, ce sont celles de mes clients que je reprends et auxquelles je donne force par ce biais-là. En l'occurrence, le modèle de la discrimination statistique a été développé par plusieurs économistes et cherche à proposer une explication différente. Et cherche à montrer comment un agent peut avoir un intérêt rationnel, au fond, à discriminer dans certains cas de figure. Et serait, par exemple, je crois que le modèle a beaucoup été utilisé avec le travail féminin, pour dire, donc, en moyenne, il y a peut-être les candidatures féminines à un poste vont présenter une menace particulière pour un employeur, qui peut être un absentéisme plus élevé, le fait, par exemple, d'avoir des enfants à charge qui vont être malades, fait que cette personne-là pourrait être peut-être plus souvent absente. Je n'ai pas d'études vraiment chiffrées pour le prouver, mais c'est... Mais peu importe que ce soit vrai ou faux, c'est juste l'idée qui est importante. Ou, par exemple, toujours dans le rapport homme-femme dominant dans la société, souvent, c'est l'homme qui va être muté et la femme qui va suivre son mari. Et donc, par exemple... En engageant un cadre femme, j'ai plus de chances qu'elle quitte mon travail pour suivre son mari que l'inverse, par exemple. Donc ça, c'est un risque. Imaginons qu'il soit réel, mais peu importe. J'ai pas de chiffres pour l'illustrer dans le cas présent. Si c'est le cas, je ne peux pas savoir à l'avance qui va partir, quoi, parmi l'ensemble des personnes qui postulent. Je ne peux pas savoir à l'avance qui va être fidèle à mon entreprise et qui va partir. Mais statistiquement, par hypothèse, mon expérience me prouve que ces cas sont plus fréquents chez les femmes que chez les hommes. Donc, j'ai intérêt à prendre un homme pour me prémunir contre ce risque, en quelque sorte. Donc, j'utilise la prévalence statistique d'un absentéisme ou d'un faux bond plus élevé chez les femmes. Et donc, au fond, il y aurait une explication économique qui rendrait la décision rationnelle, c'est qu'au fond, il y aurait une sorte d'économie. Donc, face à la différence de productivité, j'utiliserais, donc, en l'occurrence, le critère du genre comme approximation pour essayer de pouvoir identifier les caractéristiques que je cherche à éviter, en l'occurrence, l'absentéisme ou le départ d'une personne que j'engage. Donc l'autre cas, alors là, c'est sans doute beaucoup plus sensible, donc je marche un peu sur des œufs, donc pour ça je me suis vraiment armé de statistiques. C'est le cas qui avait motivé mon intérêt pour la question, c'est celui du profilage racial. Et donc d'un lien possible entre criminalité et appartenance à un groupe ethnique ou racial. Donc, à nouveau, on pourrait imaginer des situations où il y a une certaine corrélation entre un certain type d'activité criminelle et l'appartenance à un groupe ethno-racial. Dans les faits, ça se rencontre assez aisément pour des raisons tout à fait faciles à expliquer. On pourrait imaginer des mafias sur une base ethnique, on peut imaginer pour la drogue, par exemple, le simple fait que la drogue soit produite dans un pays... fait que les flux de marchandises entre l'offre, entre la production de drogue en Amérique latine, par exemple, et puis la consommation en Europe avec les intermédiaires, font que très souvent, ces activités criminelles vont épouser parfois, vont être parfois prises en charge par certaines catégories particulières de la population. Un cas encore plus frappant, et que je vais reprendre, parce qu'aussi il est un peu... étranger, donc d'une certaine manière, on peut en parler peut-être plus librement, c'est le cas de la criminalité des populations noires aux États-Unis. Donc là, c'est un fait que, pour certains types de crimes, il y a une différence vraiment très très notable entre la criminalité des personnes de race blanche et des personnes dites de race noire. En gros, pour l'âge des chiffres donc, les plus récents de 2009, donc il faut savoir qu'au fond, la population noire américaine représente environ entre 12 et 13 % de la population. Ici, par exemple, si on voit les chiffres de 5 000, ces deux chiffres-là, en fait, où on voit donc il y a une forte proportion de... donc là, c'est pour les meurtres commis en 2009. Donc, une forte proportion de cas où on ne connaît pas la race du meurtrier. Mais pour les cas où c'est connu, on voit qu'il y a environ 50-50 entre des meurtriers de race blanche et des meurtriers de race noire. Même une légère quoi, c'est même un peu plus de noirs que de blancs, en chiffre absolu. Donc, c'est-à-dire il y a plus de 50% des meurtres sont commis par des noirs, alors qu'ils ne représentent que 12% de la population. Mais encore une fois, ce n'est pas le seul fait marquant de ce tableau. Ce qu'on voit, le fait marquant, le plus marquant, c'est le plus connu sans doute, c'est la différence entre hommes et femmes. Je crois que plus de 90% des meurtres dans la société, aussi en Europe, sont commis par des hommes et pas par des femmes. L'autre fait marquant, c'est de voir ici cette rangée-là, donc surtout en fait, on voit qu'entre 17 et 30 ans, en quelque sorte, c'est là aussi où il y a une présence très massive donc des meurtres commis par des hommes jeunes âgés entre 17 et 30 ans. Et encore plus, si on prend la différence entre blanc et noir, on voit que c'est là, par exemple, là pour les 17 à 19 ans, on voit qu'en fait, là, il y a presque deux fois plus de noirs de meurtriers noirs que de meurtriers blancs parmi les jeunes entre 17 et 19 ans, alors que pour les personnes plus âgées, là, au contraire, ça se rééquilibre par rapport à la proportion générale. Ou par exemple, pour les personnes âgées, là, en fait, pour raccourcir, j'avais enlevé tout ce qui est entre 45 et 75 ans. Au fond, il y a en fait une diminution en permanence. Donc, il y a à la fois de moins en moins. Donc, plus les gens vieillissent, moins ils sont meurtriers. Et plus l'âge augmente, plus l'écart entre noir et blanc redevient normal, entre guillemets. Donc, on pourrait dire... Je viendrai après sur la question des causes de ça. On pourrait dire, par exemple, que les statistiques sont déjà orientées. On pourrait dire que là, tous les cas où c'est inconnu, en fait, c'était des blancs. Et donc là, en l'occurrence, bon, je vais passer très rapidement là-dessus. Ça, c'est des enquêtes de victimisation. Donc, ça ne marche évidemment pas pour les meurtres, parce que les victimes ne sont plus là. Mais donc, c'est les autres cas de violence, où on demande aux victimes même de dire qui est-ce qui vous a agressé, est-ce que c'était un noir, un blanc. Et on retrouve plus ou moins les mêmes chiffres. Donc, c'est des statistiques qui ont été dépouillées. Donc on a pu, en grande partie, enlever les biais au niveau des statistiques. Elles sont assez fiables, en quelque sorte. Donc là, on peut voir que le témoignage des victimes correspond aussi aux arrestations. Et donc, il y a à nouveau, pour certains crimes, pour certains types de crimes, c'est principalement les meurtres et les vols, où il y a cette présence anormalement élevée de noirs, alors que ce n'est pas le cas pour les viols, par exemple. On voit ici qu'à ce moment-là, il n'y a vraiment pas du tout de... Donc c'est vraiment certains types particuliers de délits. En plus, pour vraiment compléter le tableau, j'ai juste mis ça. Ça m'avait assez frappé en fait, par rapport à l'image déformée qu'on peut avoir, c'est que la criminalité est en grande partie intra-raciale, en quelque sorte. Pour simplifier, les noirs tuent des noirs, les blancs on voit bien en fait, ces deux chiffres ici. Donc, il prend la race du meurtrier, la race de la victime. On voit que la grande partie, les blancs tuent des blancs, en grande partie, les noirs tuent des noirs. Donc, c'est pour relativiser aussi le simple fait qu'en majorité, les noirs sont plus souvent meurtriers que les blancs. Ça ne veut pas dire qu'un blanc doit avoir peur de se faire tuer par un noir. En fait, le blanc va se faire tuer par un blanc. C'est connu qu'en fait, les gens se font tuer par les gens de la famille ou des choses comme ça. Donc, en fait, il n'y a aucune raison... Non, je reviendrai après pour ces statistiques. Au fond, les chiffres, ça ne veut pas dire que dans certains cas, là je pointe ça, je signale ça pour pointer un cas abusif où en fait à partir d'une donnée générale, il y a plus de meurtriers noirs en proportion. Il ne faut pas en déduire forcément qu'il y a un risque forcément plus important de se faire. En l'occurrence, ça c'est principalement les gangs et les choses comme ça. Donc on voit à nouveau quoi, donc les. Comme je disais, les blancs tuent les blancs, les noirs tuent les noirs, les hommes tuent les hommes. La seule différence qui m'a frappé, c'est que les femmes tuent les hommes. Alors, apparemment, en fait, là, on voit, c'est que on pourrait penser que les femmes tuent beaucoup les femmes. Les femmes tuent rarement, mais tuent plus souvent les hommes que les hommes. Donc, visiblement, les hommes, on est en fait assez menacés à la fois des deux côtés. Mais donc, à partir de ces chiffres, qui sont vraiment assez significatifs, la question se pose, est-ce que le profilage racial, c'est-à-dire est-ce que le fait de cibler pour certains types de délits certaines catégories de personnes, en l'occurrence pour les vols et pour les meurtres, est-ce que le fait que la police tienne compte de ces chiffres, a priori ça paraît logique par exemple, dès lors que une grande majorité des meurtres sont commis par des hommes jeunes et noirs, Est-ce que la police doit tenir compte de cette réalité-là? Il semblerait qu'en tout cas pour les jeunes hommes, ça ne pose pas de problème. Je pense que tout le monde accepte que la police va souvent diriger son attention plus vers un homme jeune que vers une femme âgée, par exemple. Ça paraît assez logique pour une lutte efficace contre la criminalité. Et souvent, ça ne pose pas de problème. Si on dit ça, au fond, personne n'est choqué par l'idée d'avoir plus de contrôle sur les jeunes hommes que sur les grands-mères. Pourtant, quand on ajoute la race, il y a quelque chose déjà de différent. Et donc, au fond, c'était ça la question initiale, en quelque sorte. Qu'est-ce qui explique cette différence? Parce que, comme on verra après, de certaine manière, il n'y a aucune différence. Au niveau statistique, c'est tout à fait pertinent. C'est vrai que la race, on ne peut pas la changer, mais le sexe, en grande partie, c'est quand même aussi quelque chose qu'on ne peut pas changer. Donc, en fait, voilà. Donc, Et ça, c'était pour montrer, donc le cas des victimes, je l'ai signalé aussi, pour montrer que de certaine manière, la question se pose aussi pour savoir comment protéger la population noire, qui est la principale victime de cette criminalité. C'est-à-dire, le nombre de victimes de meurtres, donc la population noire est surreprésentée parmi les auteurs de meurtres, mais elle est aussi parmi les victimes de meurtres. Et donc, de certaine manière, une lutte efficace contre la criminalité protégera principalement les noirs. Et donc, s'intéresser, par exemple, meurtrier noir et une façon de protéger aussi la population. On peut trouver que c'est pas suffisant comme défense, mais de cette manière, c'est aussi l'effet un effet induit. Donc voilà, donc ça c'était au fond ces exemples pour illustrer la définition assez générale. Donc là pour la criminalité, donc on a vraiment le cas où la propriété B qui n'est pas identifiable, c'est la proportion criminelle, on va dire. La tendance au meurtre ou au vol. Donc, encore une fois, là, j'ai signalé notamment, c'était principalement le vol et les meurtres pour la population noire. Par exemple, peut-être que pour la drogue, ce sera une autre catégorie de personnes. C'est vraiment un cas que j'ai isolé parce qu'il est assez marquant. Donc, on a une propriété qu'on ne peut pas... À l'avance, on ne peut pas savoir, ce n'est pas écrit sur le front de la personne qu'on est un meurtrier ou une personne qui a une proportion au meurtre. Par contre, l'apparence ethnique ou raciale est une caractéristique très facilement identifiable et qui donc peut servir d'indice pour permettre d'avoir une approche plus ciblée. Donc là, on a un cas de discrimination statistique où on va concentrer ses efforts sur la population noire, par exemple, que ce soit les jeunes hommes noirs, plutôt que sur les femmes âgées blanches. Donc certains éléments distinctifs de la discrimination statistique par rapport à la discrimination en général ou par rapport à ce qu'on peut imaginer des discours sur les discriminations en général. Donc, pour avoir un cas de discrimination statistique, la croyance... que les individus du groupe discriminé présentent en moyenne une probabilité plus élevée de présenter la propriété B doit être fondée, c'est-à-dire si c'est juste un préjugé totalement infondé, à ce moment-là on n'a pas un cas de discrimination statistique, on a un cas de discrimination arbitraire pure et simple. En plus, le fait de dire je vais cibler telle catégorie de personnes parce que le nombre de criminels y est plus important n'exprime pas du tout est vraiment le résultat, comme j'avais signalé, d'une incertitude. C'est parce qu'on ne peut pas connaître directement la caractéristique qui nous intéresse qu'on s'intéresse à une caractéristique intermédiaire. Et à partir de là, cette caractéristique est utilisée comme une... de manière prudente, et donc c'est le symbole, on est dans un cas où on est incertain, on ne sait pas si la personne est vraiment coupable ou non, et on n'est pas en train de dire tous les noirs sont des meurtriers, par exemple. Enfin, le plus important, c'est que, et c'est pour ça que j'ai pris le cas de la population noire aux États-Unis, c'est que j'ai présenté des chiffres sur cette réalité, je n'ai rien dit des causes. Et donc, encore une fois, le fait de dire on va concentrer notre surveillance sur la population noire est tout à fait compatible avec des explications qui dirait que cette différence s'explique tout à fait par des discriminations, par exemple. Si on prend les conditions de vie de la population noire aux États-Unis, l'espérance de vie n'est pas la même, l'accès aux soins n'est pas la même, l'accès aux revenus n'est pas la même. C'est presque deux mondes, en fait, on voit des ghettos, c'est deux mondes qui en grande partie, ont des conditions de vie et des traitements très différents. Donc il n'est même pas surprenant, en quelque sorte, que le critère racial soit un critère pertinent. Parce que là, en l'occurrence, on pourrait très bien dire que la criminalité des Noirs, la criminalité plus importante des Noirs, est le reflet de discrimination dont les Noirs sont victimes. Donc on pourrait très bien avoir j'appelle ça neutralité explicative, c'est de dire que du simple constat de la criminalité de certaines catégories de personnes, on ne peut rien déduire. Et au fond, c'est compatible avec des explications racistes. On pourrait très bien dire c'est parce que voilà, on peut avoir une explication raciste de ce phénomène-là. Mais on peut avoir une explication sociologique ou une explication qui, au contraire, met en évidence les déterminants sociaux, le fait que c'est parce qu'ils sont eux-mêmes victimes de discrimination que les activités criminelles sont plus importantes. Et donc cette neutralité explicative est, en fait, d'une certaine manière, à signaler pour distinguer la discrimination statistique des formes de discrimination motivées par un discours raciste, par exemple. En même temps, il faut souligner que cette discrimination statistique est bien une discrimination. Donc elle est à la fois, elle est surtout principalement à l'encontre des individus, d'une grande catégorie d'individus, c'est-à-dire des individus qui, en raison de leur appartenance à cette catégorie, vont être discriminés. Donc, par exemple, l'immense majorité, dans le cas du profilage racial, l'immense majorité des jeunes hommes noirs ont un mode de vie tout à fait respectueux des lois et ils vont être soumis à un harcèlement policier à tort. Donc ces personnes-là sont vraiment discriminées par rapport aux autres. Elles le sont de manière tout à fait injuste parce qu'elles le sont en fonction d'une caractéristique d'un groupe à laquelle elles se trouvent appartenir, mais qui au fond, voilà, elles-mêmes ne présente pas les catégories qui motivent la décision initiale. Comme dans le cas des femmes avec l'absentéisme, des femmes peuvent être pénalisées parce qu'elles appartiennent au groupe des femmes qui, en moyenne, seraient, selon la théorie. Donc, il y a une discrimination contre les individus qui, par définition, ne présentent pas la caractéristique recherchée. On pourrait, pour reprendre l'exemple économique, on pourrait imaginer que cette discrimination n'est pas forcément une discrimination contre les groupes. Imaginons, pour simplifier, que les femmes sont 80% moins productives que les hommes en moyenne. Alors si on paye les femmes 80% de moins, 80% du salaire des hommes, ce sera discriminatoire contre les femmes qui ne sont pas moins productives que les hommes. Mais on pourrait imaginer qu'en moyenne, il n'y ait pas une discrimination de groupe. C'est-à-dire que si les femmes en moyenne sont 80% productives par rapport aux hommes, et que les revenus sont 80% des revenus des hommes, il n'y a pas de discrimination de groupe, c'est-à-dire que le groupe lui-même, en moyenne, n'est pas discriminé par rapport à ça. Le groupe ne reçoit pas moins que sa productivité, par exemple. On peut imaginer une productivité de 100 pour les hommes, ils ont un revenu de 100, productivité moyenne de 80 pour les femmes, avec des salaires moyens de 80. À ce moment-là, il y a une discrimination individuelle, mais pas de discrimination de groupe. Il y a plusieurs cas intéressants, peut-être qu'il faut que je passe un peu plus rapide, en fait, je m'aperçois, où on peut montrer que une discrimination peut produire une discrimination statistique, même fondée sur les statistiques, peut produire des discriminations de groupe. On pourra y revenir éventuellement. Enfin, deux précisions très rapides. Le fait de parler de discrimination statistique, comme je pense que c'est assez clair maintenant, l'idée n'est pas du tout de dire que toutes les discriminations sont de ce type-là. Vraiment, c'est pas un modèle concurrent des autres, c'est pas un modèle qui cherche à remplacer ou à fournir une explication générale des discriminations. C'est juste un modèle qui est un type de discrimination parmi d'autres, qui peut cohabiter avec d'autres formes. Et peut-être encore plus évident, notamment pour le cas que j'ai signalé des rapports entre crime et race, c'est très facile de distinguer au niveau abstrait, comme ça, deux types de discrimination. Dans la pratique, on sait très bien que le profilage racial, par exemple, va être en grande partie contaminé par des formes de racisme. Donc, notamment, en fait, le fait de surinterpréter, c'est ça que je voulais dire avec le risque pour les blancs. En fait, il n'y a pas de risque pour un blanc de se faire plus tuer par un noir que par un blanc, par exemple. C'est un cas typique où là, en fait, à partir de statistiques, on va utiliser des statistiques fondées peut-être, mais pour rationaliser ou pour venir en fait, alimenter des formes de discrimination qui, elles, sont animées par une animosité raciale. Et donc, certainement, ce serait un argument pour dire que, malgré sa justification rationnelle, le profilage racial doit être interdit, c'est que, peut-être dans la pratique, on ne peut pas le distinguer des autres formes de discrimination. Ce sera forcément contaminé, il y aura forcément une réaction. Donc ça, il n'y a pas non plus de réponse claire. Ça va être très souvent, disons, le fait d'avoir des... tout dépend de la pertinence statistique. Le simple fait qu'il y a une criminalité plus élevée d'une catégorie des noirs par rapport aux blancs, comment est-ce que ça se traduit en pratique? Très souvent, il y aura donc, un exemple qu'on pourrait montrer où une tendance, disons, à surinterpréter les statistiques, ce sera par exemple par rapport au terrorisme. Donc, c'est vraiment un cas flagrant où le fait, c'est même pas sûr que ce soit vrai, parce qu'au fond, les terroristes, il y a des terrorismes d'extrémistes chrétiens, d'extrémistes végétariens, d'extrémistes. Quoi. Il y a vraiment plein de cas où il y a des cas de terrorisme. Mais imaginons même qu'il y ait vraiment une proportion plus forte de terrorisme venant d'Arabie Saoudite, par exemple. Imaginons qu'il y ait deux fois plus de Saoudiens que de Belges qui soient prêts à faire un attentat à la bombe, ce qui n'est même pas sûr, parce qu'au fond, il y a plein de convertis. Dès lors que c'est rapporté sur des... je fais des chiffres vraiment de comptoir, mais en gros, on n'arrivera pas... Il y a une centaine de personnes qui sont prêtes chaque année à faire des attentats de suicide. Par rapport à des milliards de personnes, le fait d'avoir peut-être 2 sur 1 million ou 2 sur 10 millions par rapport à 1 sur 1 million, ça n'a aucune pertinence statistique, même si c'est le double, même si donc, ça ne justifie certainement pas d'imposer à 999 millions d'autres personnes des contrôles, juste parce qu'il y a un cas de plus par rapport à 1 milliard de personnes, par exemple. Bref, donc ça c'était vraiment un peu pour essayer de présenter la discrimination statistique et de voir ce qu'elle peut avoir de distinctif par rapport à d'autres formes de discrimination. Maintenant, la question, pour reprendre donc, par exemple le cas de la population noire aux États-Unis, même à supposer qu'on puisse faire qu'on puisse imaginer un profilage racial, un profilage policier fondé sur la race, qui soit totalement exempt de racisme, c'est-à-dire qu'il soit proportionné au risque effectif, qu'il soit respectueux des personnes, c'est certainement impossible, mais imaginons que ce soit faisable. Encore une fois, comme je l'ai signalé, il y a sans doute beaucoup de choses qui nous dérangent quand même. Malgré tout, on trouve intuitivement une distinction entre le simple fait de cibler les jeunes et les hommes et le fait de rajouter un critère comme la race semble poser problème. Même si, comme je l'ai montré, il peut être tout à fait justifié au niveau, il peut être fondé au niveau empirique. Donc c'est là où j'ai commencé à essayer de me demander qu'est-ce qui pourrait expliquer cette différence de réaction. On peut imaginer que ce qui pose problème dans la discrimination statistique, c'est le simple fait que des individus soient jugés en fonction de l'appartenance à un groupe en général. Donc c'est ce que j'ai appelé l'arbitraire de la catégorisation. Ce serait l'idée qu'au fond, la seule forme de respect pour un individu, ce serait de le respecter en tant qu'individu et pas en tant qu'exemplaire aléatoire d'un groupe auquel il se trouve appartenir par hasard. Donc au fond, ce serait l'opération de catégorisation en tant que telle qui serait problématique. Ce serait un premier type de réponse. Une deuxième réponse serait de dire que c'est seulement certaines catégories précises, par exemple la race. Donc j'analyse d'abord la première, donc l'idée que ce serait l'opération de catégorisation en tant que telle. C'est-à-dire, au fond, selon cette première solution possible, ce qui est gênant dans la discrimination statistique, c'est que elle ne respecte pas le droit des individus à être traités sur la base de leur qualité individuelle et non en raison de leur appartenance à un groupe précis. Alors, le problème de cette solution intermédiaire, c'est qu'elle se heurte à un certain nombre d'objections. Alors, la première, qui en apparence est une objection assez plate, au sens où c'est une objection purement empirique, c'est de montrer que le problème, c'est qu'on accepte dans plein de cas ce genre de raisonnement où on juge les gens en fonction de leur appartenance à un groupe, c'est-à-dire. Et en l'occurrence, le meilleur exemple, c'est justement qu'on accepte que le critère, que la catégorie jeune et la catégorie homme soient pertinentes et ne posent, soient moins problématiques que la catégorie noire. Donc, ça montre bien qu'au fond, ce n'est pas le simple fait d'avoir une catégorie qui est problématique. Et là, ça a notamment essayé de montrer, on en a reparlé à midi, c'est le fait que l'assurance fonctionne sur ce principe-là. C'est qu'au fond, quand vous prenez une assurance contre les accidents de voiture, par exemple, si c'est une assurance concurrentielle qui va chercher à vous offrir la prime, le meilleur marché possible en fonction de votre profil de risque, on va justement faire ça, on va regarder qui vous êtes et on va aussi voir que, par exemple, les hommes font beaucoup plus d'accidents que les femmes, donc théoriquement, les hommes doivent payer plus cher que les femmes. Et les jeunes commettent plus d'accidents que les personnes de 40 ans, par exemple. Donc, à nouveau, les jeunes hommes devraient être pénalisés par rapport à. Je crois qu'aussi pour les voitures, il y a vraiment donc, le type de voiture que vous avez, le type de transport que. Enfin, moi, j'avoue que je ne suis pas expert, je n'ai pas de voiture, donc j'ai jamais été confronté à ces problèmes d'assurance. Mais au fond, l'idée, c'est vraiment que quand vous cherchez à vous assurer à titre privé contre un risque, vous cherchez à vous prémunir contre le risque qui vous correspond le mieux. Et c'est le travail des assurances, c'est de vous offrir un profil une prime qui correspond à votre profil de risque le plus pertinent. Et en fond, vous cherchez à ne pas payer pour la personne qui va prendre des risques inconsidérés que vous-même vous ne prenez pas. Et donc là, on voit, c'est typiquement un cas où on trouve ça normal que les gens soient traités en fonction d'un groupe auquel ils se trouvent appartenir. Et toujours par rapport à cette prime d'assurance voiture, on retrouve le même problème. J'avais lu, en fait, en Suisse, il y avait eu un débat parce qu'il y avait des assurances qui avaient commencé à proposer des primes différenciées en fonction de l'origine des personnes. C'est-à-dire le Suisse payait moins cher que l'Espagnol, par exemple. Parce qu'ils avaient trouvé que les Espagnols ou les Italiens avaient plus d'accidents. Donc, en fait, on peut trouver. Voilà, mais en même temps, dans les faits, ils avaient trouvé que c'était vrai. Dans les faits, de la même façon, à nouveau, de la même façon que les jeunes ont plus d'accidents que les personnes de 40 ans, que les hommes ont plus d'accidents que les femmes, il se trouvait que les personnes qui avaient une conduite latine un peu plus sportive avaient plus d'accidents que les. Et d'où l'idée, de la même façon que je propose des primes différenciées pour d'autres critères, j'utilise ce critère-là pour, toujours dans une perspective concurrentielle, c'est-à-dire pour offrir les primes, les meilleurs marchés pour les personnes, pour les meilleurs risques, et puis refiler les mauvais risques aux autres assurances. Donc à nouveau, la question se pose. Même là, on a à nouveau même une réaction pareille. C'est qu'en fait, là, au moment où j'ai dit les hommes jeunes ont plus d'accidents que les femmes de 40 ans, personne n'en rit. Au moment où on dit les Espagnols, il y a une chose qui me semble différente. Donc, d'où à nouveau la question qui revient, donc c'est bien la preuve que la question n'a pas été répondue. Donc, deuxième problème, c'est que la recherche d'une plus grande individualisation passe justement par le rattachement des individus à un plus grand nombre de groupes statistiquement pertinents. Par exemple, pour reprendre l'exemple, on va dire les jeunes hommes noirs ont tendance aux crimes plus élevés. On va dire, oui, mais ça, c'est pas tous les jeunes hommes noirs. Par exemple, si vous allez à l'université, certainement qu'un jeune homme noir à l'université n'aura pas plus de tendance au crime que son voisin blanc. Donc il faut prendre en compte la différence de formation, on va dire. Mais à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait en cherchant à préciser et à resserrer, donc avoir un jugement plus personnalisé, c'est qu'au fond, on réintroduit d'autres catégories. Le seul moyen de différencier entre le jeune homme noir qui a une formation et celui qui n'en a pas, c'est d'introduire une autre catégorie avec le présupposé derrière que les gens qui ont une formation ont tendance à commettre moins de crimes que les autres, qui est à nouveau un jugement fondé sur une catégorie et qu'il y a à nouveau un jugement qui peut véhiculer un jugement de valeur ou un jugement dépréciatif et stigmatisant sur les personnes. Mais donc, encore une fois, ce que je veux souligner, c'est que la seule façon d'individualiser consiste au fond à augmenter le nombre de groupes auxquels on fait référence. Et que paradoxalement, le fait de dire qu'il ne faut pas juger les gens en fonction de leur appartenance à un groupe revient au contraire à se priver d'instruments qui permettent de préciser leur profil spécifique. C'est-à-dire de dire qu'il ne faut pas prendre en compte soit la race, soit l'université, soit tel critère ou tel autre, parce que ce principe-là serait trop dangereux à utiliser. On force des gens qui auraient pu être épargné par cette, donc le simple fait d'introduire un critère supplémentaire, le fait de refuser d'introduire un critère supplémentaire, condamne plus de gens à un traitement qui peut être discriminatoire. C'est qu'au fond, imaginons par exemple, on trouve que c'est scandaleux de présupposer que c'est l'université, que c'est le fait d'avoir un diplôme qui permet de faire la différence entre les jeunes hommes noirs. C'est pas un bon exemple, peut-être. Mais donc, souvent, le fait de... Voilà. En tout cas, le simple fait... Je sais pas si c'est clair, que le fait de préciser le profil de risque consiste à introduire des catégories supplémentaires. Et donc, pourquoi la race n'en serait pas une parmi d'autres? Le simple fait de retirer un critère de distinction condamne plus de gens à être mis dans une catégorie à laquelle ils appartiennent pas vraiment, en fait. Un autre problème qu'on peut mentionner, c'est que c'est une conséquence de ce que je viens de dire, c'est que la distinction entre caractéristiques individuelles et caractéristiques de groupe est aussi peu claire, par exemple. Un bon exemple, je crois, c'est par exemple par rapport à l'accès, donc le fait d'avoir le fait d'exiger un diplôme de baccalauréat, par exemple, pour pouvoir accéder à l'université. Là, on va considérer que c'est légitime, on va dire, c'est une caractéristique personnelle. Au fond, j'ai passé mon bac, j'ai travaillé, j'ai fait des efforts, c'est mon mérite à moi, donc je mérite d'aller à l'université parce que j'ai mon bac, et c'est là, on me juge sur ce que j'ai vraiment fait. Mais, certainement, la meilleure façon de justifier le fait de demander un bac pour rentrer à l'université, c'est que c'est un bon critère pour évaluer les chances de pouvoir faire de son passage à l'université une expérience profitable. C'est-à-dire, le fait, c'est le baccalauréat est juste une catégorie statistique, qu'on va dire. C'est donc, ou plutôt, le baccalauréat sert à... c'est par expérience, on sait que les gens qui ont disons qu'on va introduire, on va dire, pour faire la médecine, il faut avoir minimum telle note en mathématiques, par exemple. C'est à nouveau parce qu'on va penser que ça permet d'identifier les personnes qui auront le plus de chances de réussir leurs études de médecine. Donc, est-ce que ça, c'est une catégorie, quoi? Et donc, ce qu'on entend par catégorie, par caractéristique individuelle, n'est en fait qu'une caractéristique de groupe qui a une valeur prédictive élevée. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit avant, c'est qu'au fond, on introduit un critère de plus pour mieux préciser le profil. Je ne sais pas si c'est clair ce que j'ai voulu dire ici. Un autre problème lié à cette demande d'individualisation, c'est que l'individualisation, elle a un coût déjà. Bon, le simple fait de devoir chercher une information supplémentaire a un coût, peut-être par exemple pour l'employeur, pour la personne qui prend la décision, pour l'employeur, pour le policier, mais elle a aussi un coût pour la personne à qui on demande ça. Donc, par exemple, imaginons pour le crime, que voudrait dire la demande d'individualiser davantage les personnes qu'on va soumettre à un contrôle plus approfondi. On peut se remettre à des catégories de groupe, c'est-à-dire jeunes, hommes, de telle race, avec tel comportement ou autre. Demander d'individualiser pour essayer de mieux savoir qui a un profil de meurtrier, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire savoir peut-être quel genre de lecture ils ont, quel genre de film ils vont voir, quel genre de... Donc ce que je veux dire, c'est que la demande d'individualisation se heurte souvent à un problème de vie privée. Souvent, le seul moyen de vraiment mieux savoir, de mieux saisir le profil, implique de poser des questions qui deviennent intrusives et qui vous forcent à répondre à des questions auxquelles vous n'avez pas envie de répondre, par exemple. Donc souvent, on a envie d'être jugé sur une catégorie plus ou moins neutre et pas sur des caractéristiques trop privées. Enfin, un cas qui m'avait frappé, j'ai oublié de mettre le nom, que je n'ai même pas dans mes notes, c'est donc le fait que très souvent, cette exigence d'un jugement individualisé ou d'une preuve individuelle se heurte à la reconnaissance même des discriminations. Donc un cas que j'avais trouvé frappant, c'était le cas d'un meurtrier noir, on revient au même cas, qui avait été condamné à mort par un tribunal de Géorgie pour avoir tué un blanc. Donc c'est un jeune homme noir, imaginons, je crois que le cas n'était pas contesté, donc c'est un noir qui avait tué un blanc et qui avait été condamné à mort pour cette raison-là. Il avait fait un appel pour un habeas corpus en montrant des statistiques qui prouvaient que dans le système judiciaire américain, quand un noir tue un blanc, il a 22% de chances d'être condamné à mort. Alors que quand un blanc tue un noir, il a 3% de chances d'être condamné à mort. Donc il avait dit, c'est un cas manifeste, donc je suis victime de racisme. Si j'avais été blanc, si j'avais été un blanc qui avait tué un noir, on ne m'aurait certainement pas condamné. C'est parce que je suis noir et que je tue un blanc que je suis condamné à mort. Et les chiffres sont quand même assez importants, 22% par rapport à 3%. Et la réponse qui avait été faite par le tribunal, c'est de dire non, mais vous n'avez pas prouvé, parce qu'il y a quand même 3% de blancs qui, au moment où ils tuent des noirs, sont aussi condamnés à mort. Donc peut-être que ça aurait été votre cas à vous. Et donc, au fond, il n'avait pas apporté la preuve que lui-même avait été victime de discrimination. Et donc, l'argumentation disait, c'est pas parce qu'il y a une donnée statistique pour le groupe que dans votre cas à vous, c'est le cas. C'est ce qu'on appelle aussi les victimes statistiques. C'est le cas, par exemple, si, imaginons qu'à Liège, il y a une prévalence pour une maladie, un cancer quelconque, de 5%, je dis vraiment au hasard, 5 pour 1000 ou 5 pour 10 000. Disons que là, 5%, quoi, plutôt, disons 5 pour 10 000, ont naturellement un cancer de la thyroïde, j'en sais rien. Et une entreprise chimique vient à côté, tout d'un coup, ce taux passe à 10, passe de 5 à 10. Il ne faut jamais savoir, si après vous-même, vous êtes malade, il ne faut jamais prouver que vous êtes parmi les 5, que vous êtes parmi les nouveaux 5% qui ont eu la maladie parce que l'entreprise chimique s'est installée. Parce que peut-être que vous auriez été les 5% qui auraient été malades même sans l'implantation de la... Donc c'est ce cas des victimes, on ne peut jamais savoir, ou inversement, en fait, on ne sait pas qui... Au moment où on réduit les risques, il y a des gens qui sont sauvés sans qu'on puisse savoir qui c'est. Et donc c'est souvent un cas frappant, en tout cas pour les victimes statistiques. Donc, en fait, quand le simple fait d'être exposé à des substances chimiques fait que votre risque passe de 5 à 10%, vous êtes incapable de prouver que c'était que vous n'auriez pas été dans les 5% qui auraient la maladie du... sans même avoir été exposé. Ce qui ne veut pas dire que l'exposition n'a pas eu un rôle. Donc là, je trouvais vraiment assez intéressant de montrer que l'argument même de l'individualisation, de prouver que c'est vraiment moi qui suis victime, se retourne en quelque sorte. Et souvent, donc, on a besoin de ce jugement, de ce raisonnement par catégorie, de ce raisonnement probabiliste, pour prouver l'existence d'une discrimination, on ne pourrait jamais prouver autrement. Donc il y aurait une autre possibilité, ce serait d'envisager que ce n'est pas le simple fait de la généralisation, de la catégorisation en soi qui pose problème, mais plutôt le recours à certaines catégories précises, par exemple la race, par exemple... Alors, en partie, oui. En partie, je pense que c'est vraiment, vraiment le cas, mais il faudrait savoir pourquoi. Et donc, au sens où je l'entends ici, la réponse est plutôt négative, au sens où je ne crois pas que ce soit le fait que ce n'est pas une propriété intrinsèque, disons, à la race, par exemple. Ou, voilà, ce n'est pas une propriété inhérente ou vraiment ouais, intrinsèque, disons, à ces catégories qui posent problème. On pourrait imaginer, par exemple, que ce qui pose problème dans l'utilisation de la race ou de l'origine, pour prendre le cas des accidents de la route, le fait que ce soit espagnol, mettons, soit espagnol, on pourrait dire qu'il n'y a pas de lien direct, il y a peut-être un lien statistique entre race et crime ou entre origine nationale et comportement dangereux sur la route, Mais on pourrait dire ce qui pose problème, c'est pas qu'il y ait, c'est pas le jugement de groupe, c'est le fait qu'il ne semble pas avoir de pertinence causale entre le critère utilisé et le but recherché. C'est-à-dire, au fond, on pourrait imaginer peut-être que pour les hommes jeunes, on pourrait trouver un lien causal entre le fait d'être jeune et un peu avec les hormones qui travaillent, qui expliquent pourquoi il y a une criminalité plus forte chez les hommes jeunes que chez les autres personnes. On pourrait trouver un lien, une pertinence causale qui pourrait expliquer la relation, ce qui ne semble pas être le cas dans le cadre de critères comme la race ou l'origine du passeport, par exemple. Où, en fait, on se dit qu'il y a peut-être une coïncidence, il y a peut-être une corrélation statistique, mais il n'y a pas de lien causalité qui permet de retracer directement, en fait, trouver une explication causale à l'utilisation de ce critère. Au fond, on pourrait se dire, même s'il est pertinent au niveau statistique, il n'est pas pertinent au niveau causal. On pourrait imaginer que c'est ça qui pose problème dans le fait d'utiliser la race. Et qu'au fond, voilà, donc, encore une fois, c'est jamais la race ou l'origine nationale qui compte, c'est toujours autre chose. Et donc, d'où le côté problématique. Alors, le problème de cet argument, c'est qu'au fond, premièrement, il fait une pétition de principe. C'est justement parce qu'on ne pouvait pas connaître cette autre chose-là qu'on utilise un critère comme proxy ou comme indice. Donc en fait, il ne fait que reformuler plus ou moins le. En fait, il dit, mais c'est parce que. Le fait de se fixer sur la race ou sur le passeport d'une personne, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a derrière. Mais le problème, justement, c'est qu'on n'arrive pas à savoir ce qu'il y a derrière. C'est bien parce qu'on ne peut pas savoir ce qu'il y a derrière qu'on utilise ça comme une approximation. En quelque sorte, il fait que l'argument ne fait que reprendre la difficulté qui était à l'origine même du problème. En plus, si vraiment ce qui nous gêne, c'est la discrimination, c'est-à-dire ce qui nous gêne, c'est que le fait que certaines personnes sont traitées de manière injuste en fonction de l'appartenance à un groupe dans lequel on les range. Donc ce qui nous dérange, c'est quand même, c'est en partie l'erreur. C'est le fait que des gens vont être injustement traités en fonction du groupe auquel on les rattache. Or, si c'est l'erreur qui nous dérange, peu importe à la limite que le critère soit un critère qui a une pertinence causale ou non, ce qui compte, c'est qu'on a le critère qui est le plus pertinent au niveau statistique. C'est bien ça qu'on recherche. Ce qu'on recherche, c'est le critère qui nous donne plus facilement les résultats les plus probants, et c'est-à-dire que le critère de décision soit celui qui produira le moins d'erreurs possibles, c'est-à-dire le moins de personnes jugées à tort. Et donc, le critère causal, à la limite, nous semble intuitivement séduisant parce qu'on suppose que le lien de causalité va être une garantie d'une pertinence statistique plus élevée. Mais ce n'est pas forcément le cas. Si vraiment on pouvait expliquer que tous les gens qui ont un nom de famille qui commence par A sont meilleurs que les autres pour un travail précis, si on ne pouvait pas expliquer pourquoi c'est comme ça, mais constater qu'on a beau répéter l'expérience à chaque fois, c'est comme ça. Là, c'est un exemple un petit peu trop tiré par les cheveux, si j'ose dire, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que le critère de la pertinence causale ne semble pas vraiment convaincant. C'est-à-dire que si on devait, pour reprendre l'exemple de baccalauréat et des réussites à l'université pour un diplôme, il semble à nouveau que, plutôt par rapport à un poste, si vraiment vous engagez quelqu'un qui vous semble le plus pertinent et que vos statistiques vous ont montré que certains critères sont des bons prédicteurs de performance, il faut imaginer le cas où, sous prétexte que ce critère n'est pas un critère causal, on éliminerait des gens dont on sait par avance qu'ils auraient mieux réussi au prétexte qu'ils auraient profité d'un critère qui n'est pas un critère causal. Par exemple, imaginons, pour reprendre le cas des raciales, c'est que sans savoir pourquoi, on constate que les Noirs aussi sont très bons pour un certain type de tâches. Par exemple, ce sont les meilleurs pour je ne sais pas trop quoi, il y a n'importe quoi. Je voulais éviter, moi, les trucs trop...
Non, mais ça, pour citer un exemple... Or, Chachmonix, ça a fallu. Et là, ça ne suscite pas le même genre de surprise, évidemment, si on se rend compte que tel ou tel groupe ethnique est plus exposé à tel type de pathologie. Dans quelle mesure peut-on, sur cette base-là, investir des recherches nouvelles qui sont donc ciblées? Alors, ça, c'est évidemment personne n'est gêné. Deuxième pas, dans quelle mesure peut-on intégrer ça dans des pratiques assurantielles, etc. Parce que dès lors qu'on a pu faire de la recherche en plus dans un certain sens, on peut vouloir l'intégrer éventuellement en considérant que les pathologies sont plus exposées à des pathologies et donc qui devraient payer une assurance plus chère, etc., etc. Donc c'est vraiment de nouveau un truc auquel on ne peut plus toucher.
En tout cas, à nouveau, pour une tâche précise, là, vous devez prendre une personne et vous avez un certain nombre de critères qui vous montrent que telle propriété est un bon prédicteur des performances de cette personne-là. A priori, il faut juger sur le critère le meilleur critère, celui qui vous dit à l'avance quel sera le meilleur candidat, et peu importe que ce critère soit un lien causalité, présuppose un lien causalité ou non. En plus, ce que je veux dire, c'est qu'au fond, cette notion de causalité, sans entrer dans des débats trop profonds, elle est très très problématique au niveau social. Je veux dire, qu'est-ce qu'un critère de causalité au niveau social? Qu'est-ce qui fait que... comment expliquer le fait, voilà, si on prend est-ce que le fait d'être jeune et homme, par exemple, quel type d'explication? Supposons que le fait d'être un homme jeune est un très bon prédicteur, permet de prédire beaucoup de comportements délinquants ou de prise de risque, par exemple. Ce que je veux dire, c'est qu'après, de cette manière, on ne va pas commencer à... disons qu'il y a une limite à s'interroger sur le... C'est intéressant en soi, mais pas comme critère de décision, c'est-à-dire pourquoi est-ce que... C'est compliqué à expliquer. Disons qu'au fond, peu importe. On peut très bien imaginer que c'est les hormones ou que c'est l'éducation que les gens reçoivent. Que c'est ça. Et, mais peu importe, au fond, comment on entend cette relation causale, en quelque sorte. Alors juste, en fait, assez brièvement, j'aimerais essayer d'identifier quelques cas qui pourraient expliquer ce qui fait que, notamment, le profilage racial semble moralement un problème. Donc il y a au moins deux types de situations où la discrimination est moralement problématique. Ce serait premièrement le cas lorsque les faits sociaux sur lesquels elle repose, c'est-à-dire ces pertinences statistiques qu'elle repère, sont eux-mêmes créés ou perpétués par la discrimination statistique. Donc ça, c'est le cas des prophéties autoréalisatrices, par exemple. Dans le cas de l'embauche, c'est par exemple typique, c'est si il y a une discrimination sur le marché du travail, que vous commencez à discriminer un groupe de population et que vous n'engagez un salaire inférieur à un groupe de population défini par un critère A. Au bout d'un moment, le résultat typique, c'est que vous allez donner raison à votre discrimination. C'est-à-dire que, imaginons que vous dites qu'il faut que les personnes d'origine étrangère, qu'une discrimination s'opère contre les femmes, contre les personnes d'origine étrangère, pour les postes de cadre, par exemple. L'investissement que représentent les études sera beaucoup plus rentable pour un homme blanc que pour une femme, que pour un membre de minorité ethnique. Et donc, très vite, il y aura une raison de moins investir dans une formation qui rapportera moins plus tard. Et donc, au niveau économique, au fond, là, de cette manière, le fait de discriminer au niveau statistique entretient une situation. Et donc là, il y a un cas problématique où, au fond, on a une situation où la discrimination n'est pas purement... maintenant, on a considéré plus ou moins que l'opération de discrimination était plus ou moins... prenait la réalité comme elle était, sans s'interroger sur pourquoi c'est comme ça, et sans s'interroger sur les effets produits par cette discrimination. Et donc c'est là, je crois, où les problèmes deviennent manifestes, c'est quand la discrimination statistique, elle est problématique, quand elle perpétue ou elle aggrave les phénomènes de discrimination existants. Ça, c'est le premier cas. Et le deuxième cas, c'est lorsque les faits sociaux qui donnent de pertinence aux critères utilisés sont eux-mêmes le résultat de conduites moralement répréhensibles. Donc là, on revient, c'est là où on peut prendre le cas, donc c'est pour ça que le cas de la criminalité noire est intéressante. C'est qu'on peut pas, on peut pas faire l'impasse sur, à ce moment-là, l'explication de ce qui est à l'origine de cette criminalité plus importante. Et la raison, une raison les plus probables, c'est quand même que cette criminalité plus importante est le fait des discriminations existantes. Et donc là, il y aurait une injustice à utiliser une... donc en fait, là, plutôt, c'est justement donc, l'article dont je faisais allusion au début. Il utilise, donc en fait, là, c'est bien compliqué. Donc c'est l'argument de Cohen contre Rawls. Donc John Rawls, pour simplifier, principe de différence, c'est-à-dire que certaines inégalités sont justifiables si elles profitent à tout le monde, y compris aux plus défavorisés. Notamment, c'est que, par exemple, donc c'est l'argument dit des incitants, c'est-à-dire qu'une personne qualifiée doit avoir une incitation à produire plus, et qu'il faut lui donner ce droit à avoir une incitation à produire plus, parce que, et en échange, ça profite à tout le monde. Et au fond, ce que Cohen dit, c'est que cet argument-là n'est pas acceptable pour le Rawlsien lui-même. C'est-à-dire, ce n'est pas un argument que le plus qualifié... Si vraiment vous croyez à Rawls, si vous êtes un adepte de Rawls, vous n'avez pas le droit de dire... vous n'avez pas le droit de conditionner vos efforts à une prime. Au fond, l'argumentation de dire certaines inégalités sont justifiées si elles profitent aux plus défavorisés, c'est un argument qui semble intuitif quand on le pose comme ça. Maintenant, quand on le traduit au niveau des motivations individuelles, si moi, je suis convaincu par cette théorie et que par ailleurs, je me trouve être le plus favorisé, ce que je serais en train de dire, c'est que je pourrais très bien produire plus et profiter aux plus défavorisés, mais que pour ça, j'ai besoin de motivation qui me rapporte à moi. En fait, c'est ça que l'argument suppose. L'argument suppose que les gens ont besoin de motivation autre que des considérations de justice. Et donc, il y a une sorte de contradiction entre le fait, si vraiment vous croyez que les motivations, que les inégalités ne sont justifiées que si elles profitent aux plus défavorisés. Or, dans la pratique, les gens, ce que font les gens, c'est pas ça. Ce que les gens disent, je pourrais produire le même apport productif. Je pourrais le faire de manière désintéressée, mais je veux en profiter. Donc en fait, il y a une certaine... je ne sais pas si c'est assez clair. Parce que c'est... En fait, je crois qu'il prend l'exemple du... Donc il y a certains cas où les gens ne peuvent pas utiliser l'argument. Par exemple, je crois, il prend l'exemple de la prise d'otage. Imaginons que je prends en otage un enfant et que je demande 1000 francs, par exemple, pour rendre l'enfant à sa mère. Tout le monde sera d'accord pour dire qu'il faudrait... payer la rançon, c'est 1000 francs, c'est... Et que de cette manière, la mère serait honteuse de ne pas dépenser 1000 francs pour avoir son enfant. Mais moi-même, je ne peux pas le dire en tant que preneur d'otage, en quelque sorte. Je ne peux pas, moi, venir dire à la mère, écoutez, c'est vraiment... Vous avez un sens moral vraiment, vraiment choquant. Parce qu'au fond, 1000 francs, c'est quand même pas grand-chose. Alors que... Donc, c'est, en fait, plus ou moins, il prend cet exemple-là pour prouver que, plus ou moins, le performant chez Rawls serait dans cette situation-là, au fond. Il pourrait très, très bien produire apporter ce surplus social sans contrepartie pour lui-même. Et de toute manière, c'est ce qu'il est censé croire si vraiment il adhère à la théorie de Rawls. Mais dans la pratique, ce qu'il demande, c'est non, parce que je veux une motivation propre, sinon je ne le fais pas. Donc en fait, il prend en otage plus ou moins Et donc, c'est l'idée qu'en fait, il y a certaines choses que vous ne pouvez pas demander au... Donc c'est l'idée qu'en fait, voilà, il faut retraduire ce qui semble juste au niveau collectif doit être retraduit au niveau individuel. Je crois qu'il appelle ça le test de l'interpersonnalité. C'est que parfois, quand on retraduit ça au niveau des motivations individuelles, on voit le problème. Et plus ou moins, donc, cet auteur essaye d'appliquer cet argument au profilage racial en disant on peut supposer que la criminalité élevée aux États-Unis en grande partie due à la criminalité des populations noires, vient des discriminations que la majorité blanche ne veut pas. Un ensemble de discriminations de rapport inégalitaire auxquelles la population blanche refuse de remédier. Or, si c'est ça la cause de la criminalité, qui profitera à tout le monde, la baisse de la criminalité profitera à tout le monde, et on ne peut pas imposer le fardeau de cette baisse de criminalité seulement aux Noirs, en l'occurrence, alors que la cause, alors qu'on refuse de s'attaquer à la cause. C'est-à-dire, si vraiment la cause de la criminalité noire sont les inégalités dont la société en général est responsable, si la lutte contre la criminalité profitera à l'ensemble de la société, parce que ça fera baisser la criminalité en général, et si en plus le profilage racial imposera un fardeau particulier sur un groupe de population, il y a un moment où on ne peut pas justifier ça, dès lors que les personnes qui vont imposer ce fardeau-là auraient pu elles-mêmes remédier aux discriminations qui sont à l'origine du problème, en quelque sorte. Et donc c'est là cette idée que les faits sociaux, donc la discrimination statistique, est moralement problématique lorsque les faits sociaux sont, elle accorde une pertinence statistique à des faits sociaux qui sont eux-mêmes le résultat de pratiques moralement répréhensibles. Donc, de cette manière, non seulement elle reproduit, mais en plus, à ce moment-là, elle est contaminée de manière indirecte par ce... Et donc, au fond, pour résumer, ce qui rendrait certains critères, comme la race, par exemple, particulièrement problématiques, ce n'est pas le fait que les gens sont jugés en fonction de leur appartenance à un groupe, même pas un groupe qui semble dénué de pertinence, même pas un groupe... Donc, parce qu'en fait, souvent, on peut trouver des contre-exemples qui permettent de montrer que le problème n'est pas que les gens sont jugés en fonction de leur appartenance à un groupe. Ce qui pose problème, c'est le fait que, en l'occurrence, les discriminations raciales étant si répandues, on ne peut pas faire abstraction. Donc voilà, l'idée, c'est qu'il y a une... C'est le caractère aussi cumulatif des pratiques discriminatoires qui font que certaines catégories, que certains critères de différenciation, en l'occurrence la race, acquièrent une saillance sociale qui rend problématique des pratiques qui par ailleurs seraient justifiées. Donc, c'est-à-dire, au fond, ce que je veux dire, c'est que le problème n'est pas que la race n'est jamais un critère rationnel ou jamais un critère pertinent, parce qu'au fond, comme on l'a vu, elle peut l'être parfois. Dans certains cas, le critère racial peut être un critère statistiquement pertinent pour prendre des décisions. Et donc, de fonder l'argumentation en disant que c'est jamais pertinent n'est pas la bonne réponse, que dans certains cas, c'est pertinent. Ce qu'on voit plutôt, c'est que on peut avoir de bonnes raisons de ne pas agir sur cette base-là, même lorsque le critère est pertinent. C'est-à-dire que dans certains cas, même si on pourrait utiliser ce critère-là comme un critère pertinent, et qu'on aurait tendance à le faire pour d'autres critères, comme le fait d'être un homme ou une femme, le fait d'être jeune ou vieux, il faut s'en abstenir parce que, par ailleurs, trop d'autres discriminations sont attachées à ce critère. Et le fait de l'utiliser dans un cas, même s'il est pertinent, alimente, reproduit, voire accentue les discriminations qui sont par ailleurs trop prévalentes. Donc au fond, il y a une sorte de... L'erreur serait de penser que c'est jamais pertinent, alors qu'au contraire, la solution consisterait à reconnaître qu'elle peut l'être, mais que même quand c'est pas, mais qu'il ne faut pas l'utiliser, même si c'est pertinent. Donc, donc d'une certaine manière, je vais essayer de résumer ça comme ça. On nous demande souvent d'être aveugle à la couleur de peau, donc blind color. Alors, d'une certaine manière, il faudrait plutôt, en effet, ne pas en tenir compte, mais savoir identifier les cas où on aurait tendance à, où on aurait normalement des raisons de tenir compte et ne pas le faire. Donc c'est plutôt qu'on a... Bref, voilà, donc la fin était un peu confuse, je m'excuse, mais j'espère que c'était... En tout cas, je crois que la discussion est encore ouverte aussi pour des questions de précision, des éclaircissements par rapport à ce que j'ai pu dire.